Donc on va lire la suite du texte de ce matin, dans Matthieu 13, à partir du verset 24, et on ira jusqu'au verset 43, puis ensuite les versets 47 à 50. Donc Matthieu 13, à partir du verset 24. Il leur proposa une autre parabole. Il en est du royaume des cieux, comme d'un homme qui avait semé du bon grain dans son champ. Pendant que tout le monde dormait, son ennemi sema une mauvaise herbe au milieu du blé, puis s'en alla. Quand le blé eut poussé et produit des épis, on vit aussi apparaître la mauvaise herbe. Les serviteurs du propriétaire de ce champ vinrent lui demander « Maître, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ ? D'où vient donc cette mauvaise herbe ?» Il leur répondit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Alors les serviteurs demandèrent « Veux-tu donc que nous arrachions cette mauvaise herbe ?»« Non, » répondit le maître, « car en enlevant la mauvaise herbe, vous risqueriez d'arracher le blé en même temps. Laissez pousser les deux ensemble jusqu'à la moisson. À ce moment-là, je dirai au moissonneur « Enlevez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en botte pour la brûler. Ensuite, vous couperez le blé et vous le rentrerez dans mon grenier. » Jésus raconta une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à une graine de moutarde qu'un homme a prise pour la semer dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes du potager et devient un arbuste, si bien que les oiseaux du ciel viennent nicher dans ses branches. Il leur raconta une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à du levain qu'une femme a pris pour le mélanger à une vingtaine de kilogrammes de farine, et à la fin, toute la pâte à lever. Jésus enseigna toutes ces choses aux foules en employant des paraboles, et il ne leur parlait pas sans paraboles. Ainsi s'accomplissait la parole du prophète « J'énoncerai des paraboles, je dirai des secrets cachés depuis la création du monde. » Alors, Jésus laissa la foule, et il rentra dans la maison. Ses disciples vinrent auprès de lui et lui demandèrent « Explique-nous la parabole de la mauvaise herbe dans le champ. » Il leur répondit « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont ceux qui font partie du royaume. La mauvaise herbe, ce sont ceux qui suivent le diable. L'ennemi qui a semé les mauvaises graines, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Comme on arrache la mauvaise herbe et qu'on la ramasse pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils élimineront de son royaume tous ceux qui font tomber les autres dans le péché et ceux qui font le mal. Ils les précipiteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et d'amers regrets. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende !» Puis au verset 47, voici encore à quoi ressemble le royaume des cieux. Des pêcheurs ont jeté en mer un filet qui ramasse toutes sortes de poissons. Une fois qu'il est rempli, les pêcheurs le tirent sur le rivage, puis ils s'assoient autour et trient leur prise. Ce qui est bon, ils le mettent dans des paniers, et ce qui ne vaut rien, ils le rejettent. C'est ainsi que les choses se passeront à la fin du monde. Les anges viendront et sépareront les méchants d'avec les justes, et ils les précipiteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et d'amers regrets.
Alors, je vais essayer de ne pas taper le pupitre. On m'a dit ce matin qu'il ne fallait pas taper le pupitre. J'ai pris ça comme un encouragement. Je dis, ouais, je ne savais pas que je tapais le pupitre carrément. Mais. Quand j'étais ado, j'ai lu une nouvelle de Guy de Maupassant. Que certains connaissent peut-être, enfin elle n'est pas hyper connue, mais certains la connaissent peut-être, c'est La Parure. Et c'est franchement l'une des histoires les plus déprimantes que j'ai lues. Vous voyez, ça m'est resté. Il est question d'une jeune femme de milieu modeste qui, pour se rendre à une soirée un peu prestigieuse, au-dessus, disons, de son milieu social habituel, se voit proposer d'emprunter un collier a priori très cher et précieux à une connaissance fortunée. Donc, il lui dit donc, et cette personne donc lui dit, lui propose d'emprunter donc cette parure. Elle emprunte donc cette parure, ce collier, et à un moment donné, pendant la soirée, elle la perd. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de perdre quelque chose qu'on vous avait prêté. C'est vrai que c'est assez désagréable. Terrible moment pour elle et pour son mari. Ils vont alors contracter un emprunt très important et ils vont aller, donc, dans l'immédiat, dans les jours après, racheter à un prix faramineux une parure identique, a priori identique, qu'ils rendent à sa propriétaire. Et ensuite, ils vont passer des années et des années à trimer, à se saigner pour rembourser leur emprunt. Ils vivent des années de galère, vieillissent à vue d'œil. Et un jour, des années plus tard, la femme recroise la propriétaire de la parure qui lui dit « Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Tu es méconnaissable. » Et alors, elle décide de tout lui raconter. Elle dit « Bah justement, je vais te dire ce qui s'est passé. » Et là, la propriétaire lui dit « Mais c'était un faux. C'était une parure en imitation. » Et l'histoire s'arrête là. Voilà, je vous ai bien donné le moral. Alors, mais ce couple a donc gâché sa vie, plus ou moins, a remboursé un emprunt énorme pour rien. Quelle histoire terrible. La Bible nous met souvent en garde contre le risque de vivre nos vies pour une illusion. Quelque chose qui paraît tout à fait logique sur le moment, mais qui s'avérera absolument vain en définitive. Quelque jour qui paraît précieux un jour, mais qui va un jour simplement disparaître et qui ne vaudra plus rien. Et pendant des années, on aura trimé, on se sera mobilisé pour être à la hauteur de ce qu'on croit être les bons objectifs de vie, tout ça pour prendre conscience un jour qu'on aura vécu pour du vent. Et cette mise en garde, Jésus lui-même la formule à plusieurs reprises dans son enseignement. Il remet en question fondamentalement les valeurs de ce monde qui était en vigueur à son époque tout autant qu'aujourd'hui, même si la forme change un peu. Alors, qu'est-ce que j'appelle les valeurs de ce monde ? Ça paraît bien large. Et je ne veux pas caricaturer les choses. Mais une manière très simple de les présenter serait de dire les choses ainsi. Chacun vit pour soi. Alors, quand je dis pour soi, je le dis de façon englobante. Pour soi, pour les siens, pour les valeurs qu'on a décidé de faire nôtres. Mais la vie est centré sur soi. Et dans un sens, on pourrait dire, oui, mais quoi de plus normal ? Quoi de plus normal que de vivre pour soi, sans faire de mal aux autres, a priori ? La grande majorité de nos contemporains aujourd'hui considèrent que c'est du simple bon sens. Et si cette manière de voir la vie, tellement courante, et qui nous influence, forcément, si cette manière de voir la vie était entièrement fausse, et si nous avions été créés pour toute autre chose, et que comme le couple dans l'histoire de Maupassant, cette façon de vivre s'avérait en définitive tragiquement erronée. Alors vous demandez peut-être un peu le rapport avec le texte que Marie a lu. Eh bien entre autres choses, ce royaume de Dieu que Jésus est venu proclamer implique une manière fondamentalement différente de voir la vie. On pourrait même dire, plus simplement, ça implique une autre vie, fondée sur des valeurs radicalement autres. Et là, on entre dans le vif du sujet. La parabole du semeur qu'on a vue ce matin nous a montré que Jésus nous appelle à être à son écoute, à accueillir une parole qui va nous changer, la parole du royaume. Mais le contenu du message sur le royaume de Dieu ne nous a pas vraiment été donné, finalement, dans la parabole du semeur. En revanche, dans les paraboles que nous examinons maintenant, Jésus commence à parler de ce qu'est ce fameux royaume de Dieu. On va voir qu'il ne nous dit pas tout, et de loin pas, mais il commence à en parler. Et on va examiner ça en deux temps ce soir, un royaume surprenant et un royaume en mouvement. Alors quand j'étais ado, je ne faisais pas que lire du Maupassant, je veux quand même vous rassurer. J'aimais bien les films aussi. Voilà, ça vous parle plus, hein ? Voilà, là, où va le monde ? Un des films qui m'a marqué quand j'étais ado, c'est ce film, Usual Suspects, avec entre autres Benicio del Toro et Kevin Spacey. Alors, je vais essayer de ne pas tout gâcher, Si jamais vous voulez faire une soirée rétro et regarder ce film, qui est vraiment excellent d'ailleurs et que je recommande. Bon, il est un peu dur, mais il est excellent. Mais une des choses qui constitue un peu le choc dans le dénouement du film, vous allez voir que je vais quasiment rien dire, c'est de voir à quel point les apparences sont trompeuses et que le vrai pouvoir n'est pas là où on le pense. Pour un juif de l'époque de Jésus, l'expression « royaume de Dieu » elle n'est pas étrangère ou nouvelle, cette expression. Dans les Écritures juives, dans l'Ancien Testament, Dieu lui-même est souvent présenté comme un roi. Un roi qui règne éternellement sur son peuple, qui a toute autorité sur le peuple et même sur le monde, mais contre qui le peuple, Israël, et plus largement les nations, s'est révolté à maintes reprises. Alors dans certains textes des psaumes et des prophètes, il est aussi fait allusion à un homme, un roi humain futur, qui va hériter du trône de David, donc qui va s'inscrire dans la dynastie du roi David, et qui va régner cette fois sur toutes les nations avec une autorité divine. Donc c'est un peu mystérieux, un homme, mais qui semble avoir une autorité divine. Et un exemple type, mais il y en a d'autres de ce texte, c'est le psaume 2, dans lequel Dieu dit « Moi, j'ai établi mon roi par l'onction sur Sion. » Par l'onction sur Sion. Alors, par l'onction, c'est simplement, c'est-à-dire que Dieu a investi son roi. Il a l'onction, on versait un peu d'huile, c'était une façon symbolique de montrer l'autorité qui était investie. Donc, j'ai établi mon roi par onction sur Sion, ma montagne sainte. « Tu es mon fils. » C'est Dieu qui parle. « Tu es mon fils. Aujourd'hui, je fais de toi mon enfant. Demande-moi, que veux-tu ? Je te donne en patrimoine tous les peuples de la terre. » Et le monde, jusqu'en ses confins lointains, sera ta propriété. Et un petit peu plus loin, dans le même psaume, le psalmiste poursuit « C'est pourquoi, roi de la terre, montrez-vous intelligent. Vous qui exercez le gouvernement en ce monde, laissez-vous donc avertir. Servez l'Éternel avec crainte et tout en tremblant, exultez de joie. Au Fils, rendez votre hommage pour éviter qu'il s'irrite et que vous périssiez tous dans la voie que vous suivez. J'ai cité ce texte. Dans une première version, j'en citais un ou deux autres, puis j'ai vu que ça faisait trop long, mais on pourrait en citer d'autres, dans lesquels il est question d'un roi qui serait étroitement associé à Dieu, au point donc d'être investi d'une autorité universelle et éternelle, d'un royaume indestructible. Et donc, quand les Juifs de l'époque de Jésus entendaient parler du royaume des cieux ou du royaume de Dieu, et quand ils entendaient dire « le royaume de Dieu est proche », ils avaient forcément ces textes à l'esprit. C'est tout à fait naturel. Et on peut supposer, et on a des indices dans les évangiles, que les gens s'imaginaient du coup une investiture spectaculaire du Messie, un renversement des puissances humaines existantes et une sorte de guerre cosmique entre le roi de Dieu et les hommes révoltés. On les comprend. Si on imagine que Dieu va envoyer un roi sur terre, c'est ça qu'on imagine. Nous aussi, ça serait, à leur place, on aurait pensé la même chose. Et d'ailleurs, dans un sens, ils n'avaient pas vraiment tort. Ils n'avaient pas entièrement tort, en tout cas, comme on le verra. Et pourtant, la présentation que Jésus va donner du royaume de Dieu tranche complètement avec cette attente. Il y a dans ce royaume de Dieu que Jésus annonce comme une divine surprise, littéralement. Une surprise pensée et exécuté par Dieu. Alors à quoi ressemble cette surprise ? Eh bien Jésus va nous en donner un aperçu. Mais la première idée qui ressort nettement de ces paraboles est celle-ci, le royaume a des débuts discrets. Et vous aurez peut-être remarqué que dans toutes les paraboles ou presque qui ont été lues, on a cette idée. Par exemple, l'image de la graine de moutarde au verset 32, c'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes du potager et devient un arbuste, si bien que les oiseaux du ciel viennent nicher dans ses branches. Alors, n'étant pas spécialiste de la moutarde, je suis allé sur Wikipédia, n'est-ce pas, où j'ai pu lire qu'effectivement, c'est bien, Wikipédia confirme la Bible, effectivement, la graine de moutarde est une toute petite graine de 1 mm de diamètre, en moyenne. Mais cette graine donne un plant assez haut, de typiquement 80 cm de hauteur. Voilà, vous saurez tout. Alors, de même que Jésus ne donnait pas de cours d'agriculture dans la parabole du semeur, il ne donne pas de cours de botanique ici. Il utilise une image. et une image qui était parlante dans son contexte. Elle est peut-être moins dans le nôtre, mais elle l'était dans le sien. Il communique quelque chose de petit et discret au début, mais qui devient ensuite quelque chose de grand. Dans la parabole du levain, on a une image semblable. Verset 33, le royaume des cieux ressemble à du levain qu'une femme a pris pour le mélanger à une vingtaine de kilogrammes de farine, et à la fin, toute la pâte a levé. Le début est là encore discret, dérisoire, mais le résultat est là lui aussi. Ce petit peu de levain, mélangé à la farine beaucoup plus abondante, a fait lever toute la pâte. Donc voilà une première idée qui ressort. Le royaume que Jésus révèle a des débuts discret. Et ça, c'est une surprise. C'est déjà un élément de surprise. Une deuxième idée qui rejoint aussi cette notion de surprise, là qui la rejoint assez directement pour le coup, c'est l'idée d'un secret. Le royaume est comme caché et sa croissance se fait en secret. Il y a cette idée dans l'image de la minuscule graine de moutarde qui germe dans la terre. On ne voit pas le processus, mais on voit le résultat. Il y a cette idée, pareil, dans le petit peu de levain caché dans la farine. On retrouve aussi cette idée dans la parabole du filet, qui a été lue en dernier. Verset 47, des pêcheurs ont jeté en mer un filet qui ramasse toutes sortes de poissons. Le filet est dans la mer et on ne voit pas les poissons se prendre dedans. Ça se passe hors des regards, de façon discrète, de façon cachée. Et on retrouvera aussi cette idée dans la parabole du trésor caché dans le champ, ça on en parlera demain matin. Or, cette idée d'un secret, elle est confirmée dans le petit commentaire ajouté par Matthieu au verset 34 et 35. Jésus emploie des paraboles comme un message partiellement codé, on en a parlé ce matin, et conclut Matthieu, l'évangéliste, citation du psaume 78, « Ainsi s'accomplissait la parole du prophète, j'énoncerai des paraboles, je dirais des secrets, littéralement des mystères, mais en gros c'est ça que ça veut dire, des secrets cachés depuis la fondation du monde. » Déjà plus tôt dans notre chapitre, Jésus a dit à ses disciples qu'ils avaient reçu le privilège de connaître les secrets du royaume de Dieu, verset 11. Le royaume de Dieu n'est donc pas proclamé avec des grands cris sur la place publique, c'est frappant. Ici, en tout cas, c'est pas comme ça qu'il est proclamé. Pour l'instant, il est caché. Ou partiellement caché. Mais le secret du royaume n'a pas vocation à rester secret. Il demande à être révélé. C'est comme une surprise à un moment, si on veut qu'il y ait une surprise, il faut la faire quand même. On ne peut pas indéfiniment garder le secret si on veut que quelqu'un soit surpris. Et on vient de voir que Jésus invite ses disciples à connaître les secrets du royaume. Et d'ailleurs, ça ressort, cette idée de secret, ça ressort dans le refrain de ce chapitre. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Mais Jésus va révéler ce secret à sa manière et en son temps. Et dans toutes les images qu'on a relevées dans le texte, on constate aussi que si les débuts sont invisibles, l'aboutissement, lui, il est plus que visible, il est dévoilé aux yeux de tous. Le plant de moutarde domine le potager, la pâte a levé, les pêcheurs ramènent un filet rempli de poissons sur le rivage. On retrouve donc dans ces images l'idée de début discret, surprenant, quelque chose qui se passe dans le secret, mais qui un jour sera révélé aux yeux de tous. Et il est intéressant de noter dans ces paraboles, et je trouve ça vraiment intéressant, qu'à aucun moment Jésus n'est très précis, même en parlant du royaume de Dieu, ici, ben il n'est pas si précis que ça, dans sa description de la nature de ce royaume. Et c'est comme si justement le temps n'était pas encore venu pour ça. Dieu nous garde encore en quelque sorte la surprise, en partie. Mais il nous révèle par petites touches des aspects de ce royaume, comme un teasing pour nous donner envie d'en savoir plus. Et je crois que ça doit nous faire réfléchir sur notre manière, à nous qui sommes chrétiens, de proclamer et d'annoncer le royaume de Dieu. Je ne dis pas que les paraboles du royaume sont notre modèle unique de proclamation du royaume, pas du tout. Mais je pense que ce texte peut nous faire réfléchir. J'ai le sentiment que nous alternons dans notre annonce de l'évangile, du royaume de Dieu, nous alternons entre l'exposé explicite et le silence total. Et qu'il n'y a pas grand-chose entre les deux. Alors, évidemment, il y a une place pour l'exposé explicite. S'il n'y en avait pas, ça serait dramatique. Et on trouve ce registre largement dans l'écriture. Sans doute qu'il y a une place parfois pour le silence. Peut-être pas aussi souvent qu'on a tendance à le dire, mais certainement que parfois il y a une place pour le silence. Mais il est intéressant qu'au moment où Jésus prend le temps de parler à ses auditeurs du royaume de Dieu, Jésus privilégie des images évocatrices, des paroles qui restent dans la mémoire, même si elles restent un peu mystérieuses, des contours qui nous donnent envie d'en savoir plus, mais dont on attend encore la pleine révélation. Alors certes, là, le royaume va être aussi révélé par ce qui va se passer plus tard dans l'évangile, par la croix et par la résurrection, et ça va apporter une lumière nouvelle sur la proclamation du royaume de Dieu. Néanmoins, je me demande si nous ne devrions pas parfois nous inspirer aussi de ce modèle, d'utiliser des images qui restent gravées dans la mémoire, qui donnent envie d'en savoir plus sur le royaume de Dieu, mais sans tout dire, comme une première approche. Peut-être que c'est pour ça que parfois on est plus touché dans notre spiritualité, parfois, hein, en lisant un livre ou en regardant un film qui nous prend aux tripes et qui évoque Dieu et l'Évangile, et parfois sans le vouloir, souvent sans le vouloir, mais qui nous rappelle aux choses essentielles, et nous ramène aux choses essentielles et donc à Dieu. Et parfois, ça va plus nous toucher qu'un exposé ou une prédication. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne suis pas en train d'opposer l'un à l'autre. Et en tant que prédicateur, ce serait un comble de dire que la prédication ne sert pas à grand-chose. Ce n'est pas du tout ce que je crois. Enseigner explicitement la Bible est vital et essentiel. Mais il y a peut-être des choses dans la révélation de Dieu qui sont encore en partie inconcevables pour nous. Quand on pense, par exemple, à l'avenir éternel, nouveaux cieux, nouvelle terre, corps de résurrection. Oui, la Bible affirme cela, mais ça va ressembler à quoi ? Quand même difficile à dire, le plein établissement du royaume de Dieu. Eh bien, peut-être que ces choses-là sont mieux évoquées et esquissées que décrites et affirmées de manière péremptoire. Et c'est pourquoi nous avons besoin non seulement de prédicateurs, mais aussi et d'évangélistes, mais aussi d'artistes et de poètes pour parler du royaume de Dieu. Et justement, c'est du royaume de Dieu qu'il s'agit. C'est normal qu'on ne puisse pas pleinement saisir le royaume de Dieu. Plus j'avance dans la vie chrétienne, je commence déjà à parler comme un vieux, mais plus j'avance dans la vie chrétienne, plus je me rends compte que c'est normal qu'il y ait plein de choses qu'on ne comprenne pas. Et si on pensait tout comprendre, ça serait plutôt inquiétant. Ça donnerait plutôt l'idée que c'est nous qui avons créé Dieu à notre image plutôt que le contraire. C'est normal que notre entendement limité ne puisse pas tout saisir. Et c'est comme si Jésus ici donne des éléments pour donner envie d'en savoir plus. Et si nous ne pouvons pas saisir le royaume de Dieu, nous-mêmes, lui peut nous saisir et Dieu peut nous entraîner dans ses projets. Et c'est la deuxième grande idée que je voudrais relever dans ce texte. Dieu nous invite à entrer dans une dynamique, dans un royaume en mouvement. Lors de vos stands, je sais qu'au JBU on fait des stands et c'est super, quand vous témoignez de votre foi, plus généralement, pas qu'au stand, auprès de vos camarades non chrétiens, j'imagine que parfois vous entendez cette remarque. Mais alors, si Dieu existe, pourquoi est-ce qu'il se cache ? Pourquoi on ne le voit pas ? Ce serait quand même plus simple, ça réglerait la question, croit-on. Pourquoi est-ce qu'il ne se montre pas tout simplement ? C'est vrai, après tout, les grands de ce monde, ils n'hésitent pas à communiquer, ils n'hésitent pas à le montrer, hein, un tweet de Trump par-ci, une vidéo de Macron par-là, tous font de même. On ne peut pas dire qu'il se cache. Alors, à plus forte raison, Dieu. Mais on a commencé à répondre à cette question en parlant des débuts discrets du royaume, de son caractère secret et de la révélation quelque peu mystérieuse de ce secret. Maintenant, l'autre grande idée qui ressort de ces paraboles, c'est celle de deux grandes étapes. Deux grandes étapes. Une première étape qui est en partie cachée, comme on l'a vu. Et un accomplissement, une seconde étape où tout est révélé, où le royaume de Dieu s'impose à tous et le positionnement de chacun est mis en évidence. Et on voit dans le texte, la manière dont Jésus dit les choses, que ça va faire mal pour ceux dont le positionnement s'oppose au roi Jésus-Christ. Deux grandes étapes. Dans le jargon théologique, on parle du déjà et du pas encore du royaume. Vous avez sans doute déjà entendu cette expression. On retrouve cette idée dans toutes les paraboles de cette section, y compris la première que je n'ai pas encore examinée, la parabole de la mauvaise herbe, plus connue sous le nom de parabole de l'ivraie. Regardons rapidement cette parabole. Verset 24 nous dit qu'un homme sème du bon grain dans son champ. Et celui qui sème, expliquera Jésus plus tard, c'est le Fils de l'homme, autrement dit, lui-même. Mais que se passe-t-il dans le même temps? Verset 25. Pendant que tout le monde dormait, son ennemi sema une mauvaise herbe au milieu du blé, puis s'en alla. Et quand le blé eut poussé et produit des épis, on vit aussi apparaître la mauvaise herbe. Donc dans le champ, il y a du bon grain qui a été semé, mais il y a aussi un mauvais grain qui a été semé par un ennemi. Et là, les versets 27 et 28 sont très importants. Je vais les paraphraser. Les serviteurs viennent et demandent au propriétaire « Mais alors, comment ça se fait qu'il y a de la mauvaise herbe ?» Et le propriétaire dit « C'est pas moi, c'est à cause de mon ennemi. C'est pas moi qui ai planté ça, c'est mon ennemi. » Les serviteurs disent « Pas de souci, on va aller arracher tout ça. » Et là, le propriétaire répond, et cette fois, par contre, je cite le texte, verset 29, « Non, car en enlevant la mauvaise herbe, vous risqueriez d'arracher le blé en même temps. Laissez donc pousser les deux ensemble jusqu'à la moisson. » Il y a donc une première étape où le bon grain cohabite avec le mauvais grain, où le blé cohabite avec la mauvaise herbe. Dieu est à l'œuvre. Le Fils de l'homme a semé le bon grain, sème le bon grain. Le bon grain pousse, germe et pousse. Le royaume de Dieu est présent. Là encore, c'est caché. Pendant la nuit, quand tout le monde dort. Le verset 38 confirme que la bonne semence, ce sont ceux qui font partie du royaume. Et donc là, on voit que le royaume est présenté comme une réalité qui est déjà à l'œuvre, qui est déjà présente. Mais il y a aussi une attente. Le moment n'est pas venu d'enlever la mauvaise herbe. Ce moment est pour plus tard, pour le temps de la moisson, où un tri sera fait. Et j'y reviens bientôt. Mais on retient ces deux étapes. Une étape où le royaume cohabite avec une sorte d'autre royaume dominé par le diable, par l'esprit qui est à la source du mal. Verset 39, l'ennemi, bien sûr, c'est le diable. Et une étape future où le tri est fait, où le mal est définitivement vaincu. Ce qui implique que les hommes restés rebelles à Dieu seront jugés. Alors, nous dit Jésus, le royaume sera pleinement établi dans toute sa force. Verset 43, alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Donc il y a le déjà, le royaume qui est présent et qui est associé à Jésus et à sa parole. Pas à des grands signes, mais à Jésus et à sa parole. Il y a le pas encore, le royaume sera un jour pleinement établi et rien ni personne ne pourra s'y opposer ce jour-là. Et on retrouve cette idée dans les autres paraboles. Dans un premier temps, la graine de moutarde germe et pousse discrètement, mais dans un deuxième temps, elle domine le potager. Dans un premier temps, le levain est inséré dans la farine. Dans un deuxième temps, toute la pâte lève. Dans un premier temps, on laisse le filet dans la mer pour attraper les poissons. Et dans un deuxième temps, on ramène le filet sur le rivage et on fait le tri. Le déjà et le pas encore. Donc Jésus veut que ses auditeurs comprennent que le fracas et le bouleversement cosmique, c'est pas pour aujourd'hui. C'est pas pour aujourd'hui. La fin du mal et de la souffrance, ce n'est pas pour aujourd'hui. La fin de la révolte contre Dieu, ce n'est pas pour aujourd'hui. Tout cela viendra à la fin des temps. Et il ne faudrait pas oublier, là encore, que si c'est une perspective merveilleuse pour ceux qui ont accueilli le royaume de Dieu, qui se sont placés dans le juste sens de l'histoire, eh bien, il y a aussi, dans ces paraboles, un avertissement très fort, l'affirmation claire d'un jugement à venir. Ceux qui n'auront pas accueilli le royaume et son roi seront exclus de la vie et de la paix que Dieu établira pour toujours. Le royaume est un royaume à contre-courant, on l'a vu, surprenant et à contre-courant. Or, le courant emporte vers la perdition. Et donc, c'est salutaire que le royaume soit à contre-courant. Un jour, Dieu mettra fin au monde présent, exercera son jugement et établira définitivement le monde nouveau, où il essuiera toute larme, nous dit la Bible, où la mort et la souffrance seront engloutis par la vie, Ésaïe 25, 1 Corinthiens 15. Et ça, nous l'attendons encore. Aujourd'hui, en 2018, on attend encore cet accomplissement-là. Ce qui est pour aujourd'hui, en revanche, c'est un royaume qui avance, comme en secret. Un royaume qui ne fait pas la une des journaux, c'est vrai, mais qui change les vies, souvent discrètement, souvent loin des regards. Un royaume qui n'a pas encore de territoire, mais qui a déjà ses ambassades, les églises locales, où Jésus est reconnu comme Seigneur et où sa parole régit toute chose. Un royaume qui ne se mesure pas selon les critères de la puissance humaine. Et c'est aussi pour ça qu'il ne fait pas la une des journaux. Mais qui contient en germe une autre puissance qui, ultimement, dépassera infiniment celle des hommes. Un royaume pas encore établi visiblement, donc, mais, si j'ose dire, en marche, pour reprendre une expression à la mode, mais qui va fâcher quelques-uns ici, je le sais. Peut-être que finalement, nous ne devrions pas être surpris que l'œuvre de Dieu semble discrète, qu'elle ne se déploie pas à coups de conversion de masse et de signes dans le ciel. Alors parfois, peut-être, ponctuellement, un réveil, des miracles, cela existe aussi. Mais peut-être que nous ne devrions pas être surpris qu'avant tout, il laisse la parole de Jésus faire son œuvre. Et peut-être que justement, par une divine surprise, Dieu travaille en coulisses et discrètement. Mais au bout du compte, la surprise, elle sera bien là, dans toute sa force. Et l'appel donc que Jésus lance n'est pas un son de trompette triomphant, ça c'est pour plus tard. Un Thessalonicien, il est question d'une trompette, sans doute c'est symbolique, mais ça va venir, ce retour manifeste de Jésus. Non, aujourd'hui c'est plutôt une invitation à la foi, une invitation à vivre une autre vie. Une vie qui s'inscrit dans cette dynamique d'un royaume qui avance discrètement, lentement, mais sûrement. Une vie vécue non pas pour soi, parce que ce royaume qui avance, ça doit être nos vies qui avancent avec. Une vie vécue non pas pour soi, mais pour Dieu. Si on prend bien conscience, une bonne fois pour toutes, qu'en fait on a été créé pour Dieu, que c'est lui le propriétaire de notre vie. C'est ça, quand on dit Seigneur, c'est ça que ça veut dire, hein, le propriétaire de notre vie, qu'il a tous les droits sur nous. Et que donc, le sens de notre vie, il est là, vivre pour Dieu. Non pas pour l'expérience intense du moment, Dieu nous donne parfois dans sa grâce des expériences intenses, mais ce n'est pas ça le but de la vie. C'est plutôt la persévérance dans l'espérance, c'était le thème, si je me souviens bien, de la méditation ce matin, de Julien, persévérance dans l'espérance de ce qui est à venir. Une vie donc qui va dans le sens de l'histoire véritable, l'histoire que Dieu écrit et la seule qui en définitive demeurera. Amen.